Petite note juste par rapport à mes sources, j'ai beaucoup puisé dans cet ouvrage qui est de Jean-Paul Demoule, archéologue et non linguiste, sur le sujet, sur mes propres cours que j'ai pu suivre à l'université. Donc pour commencer, on va faire quelques petits points définition. C'est toujours bien de commencer par des définitions, et puis là on est sur un sujet un peu linguistique, donc s'intéresser au sens des mots, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indo-européen ? Donc déjà d'un point de vue chiffré, vous l'aurez sans doute remarqué, mais il existe une multitude de langues humaines. L'ONU en reconnaît officiellement 141, les linguistes en dénombrent entre 3000 et 7000, selon les définitions qu'ils peuvent en trouver. Et ces langues font l'objet de différentes classifications, et notamment des classifications par famille. Donc on s'attache à regrouper des langues en fonction de similarités à la fois lexicales et morphologiques. Et l'une de ces grandes familles, c'est ce qu'on appelle les langues indo-européennes. Donc déjà, les langues indo-européennes, c'est déjà les langues de cette famille-là, qui présentent donc des ressemblances et des points communs significatifs. Alors, pour expliquer ces ressemblances, l'hypothèse qui a très longtemps prévalu et qui est encore extrêmement forte, même majoritaire, c'est l'idée d'une origine commune, d'une langue première, d'une langue mère commune, duquel seraient dérivées les autres langues de la famille indo-européenne. C'est ce qu'on appelle le proto-indo-européen. Alors on n'a pas de trace directe de cette langue, puisque si cette langue a existé, elle a existé au néolithique, donc bien avant qu'on ait des sources écrites pour attester cette langue. Et on peut en opérer des reconstitutions. Et ensuite, indo-européen, ça désigne aussi les gens qui auraient parlé ce proto-indo-européen. Puisque l'idée, c'est que si langue il y avait, elle était parlée par un peuple. Donc l'objet de cette intervention aujourd'hui, c'est pas du tout de remettre en cause le fait qu'il y ait des ressemblances très frappantes et très marquantes qui permettent de regrouper des langues, ces langues indo-européennes, dans la même famille. C'est par contre de s'interroger sur ce modèle explicatif, cette hypothèse indo-européenne, qui veut que c'est un peuple unique, qui aurait parlé une langue unique, qui aurait donné les langues de la famille indo-européenne sur un modèle généalogique. Vous voyez ici un arbre des langues, un arbre généalogique des langues mortes et vivantes. Alors, on va tout d'abord commencer par aborder un petit truc historique. Donc se demander comment cette notion est née, cette hypothèse indo-européenne, ce qui correspond par ailleurs avec l'émergence de la linguistique en tant que science. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, on avait une explication assez satisfaisante de la diversité des langues, hein, venue d'une source tout à fait fiable, qui était la Bible, avec le fameux épisode de la tour de Babel, que vous connaissez sans doute tous, je vais rappeler très brièvement. L'humanité parlait une seule et même langue, la langue d'Adam, hein, au commencement était le Verbe. Ils ont décidé que tous ensemble, ils pouvaient essayer de construire une tour qui les mènerait jusqu'aux cieux. Dieu était un petit peu colère face à cette prétention humaine, donc pour condamner leur hubris, il détruit la tour et il les condamne à tous parler une langue différente afin que plus jamais ils ne puissent s'unir et remettre en cause son pouvoir. Donc au départ, la diversité des langues, elle est interprétée comme une malédiction divine. Bon, on commence à un moment donné, à un moment de la Renaissance, à remettre un petit peu en cause cette explication, puisque c'est aussi une période où on remet de façon générale en cause les explications bibliques. Et c'est par ailleurs aussi un moment où on découvre d'autres cultures. Et notamment on s'intéresse au sanskrit. C'est ainsi que Leibniz, dès 1705, émet l'hypothèse d'un peuple originel duquel seraient découlés les Européens, et que lui, il place sur les côtes de la mer Noire. Pourquoi sur les côtes de la mer Noire? Il ne donne pas d'explication, mais bon. Côtes de la mer Noire. Alors, concernant les études indo-européennes, comme dans beaucoup de disciplines, il y a une espèce de légende dorée, un peu comme la pomme de Newton ou la baignoire d'Archimède. C'est l'histoire de Sir William Jones, un fonctionnaire anglais en poste dans les colonies, donc en Inde, qui était un philologue très, très averti et qui, remarquant les ressemblances entre le sanskrit, qui est la plus ancienne langue d'Inde dont on a la trace, et le grec ancien, le latin, décrit donc ces ressemblances et en 1786, dans un discours fameux, émet l'hypothèse d'une origine commune, d'une langue mère commune et donc d'un peuple qui la parlait. C'est d'autant plus évident à l'époque de partir sur cette explication qu'on a quand même un exemple extrêmement frappant qui est le modèle du latin et des langues italiques, latines ou romaines, comme on veut. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a des sources directes, c'est-à-dire qu'on a des textes en latin qui nous permettent de suivre l'évolution de la langue latine, et on a les différentes langues qui en sont dérivées, le français, l'italien, l'espagnol, et on arrive à retracer de façon un peu évidente comment ces langues sont nées de cette langue unique. Donc on va partir sur cette hypothèse de la même façon que les langues latines viennent du latin, les langues indo-européennes viennent des indo-européens. Alors, au XIXe siècle, c'est vraiment le moment de l'émergence de ces études indo-européennes. Et pendant la grande majorité du XIXe siècle, ça se fait, ces recherches se font surtout en Allemagne. Alors, en allemand, on ne dit pas indo-européen, on dit indo-germain. Encore de nos jours, on parle d'indo-germain dans les universités allemandes, ce sont des chaires d'indo-germain. Alors, il y a plusieurs facteurs conjoncturels qui expliquent un petit peu cet intérêt très fort des Allemands et plusieurs générations de chercheurs. Donc, la première génération, on a Franz Bopp, qui est le fondateur de la grammaire comparée, qui est encore un domaine de recherche qui existe aujourd'hui, donc il est assez important. Lui et Erasmus Rask, qui était danois, mais qui faisait aussi ses recherches en allemand. Alors, Franz Bopp, il publie entre 1833 et 1849 une grammaire comparée des langues indo-européennes, comprenant le sanskrit, le zend, l'arménien, le grec, le latin, le lituanien, l'ancien slave, le gothique et l'allemand. Il opère une classification des langues de façon très systématique, et dans le même temps, il opère aussi une hiérarchisation entre les langues. C'est-à-dire qu'il classe les langues des plus civilisées aux moins civilisées en fonction du génie des langues. Alors, son critère de civilisation d'une langue, c'est le degré de déclinaison. Plus il y a de déclinaison, plus une langue est civilisée. Évidemment, c'est une idée qui a plus de succès en Allemagne qu'en France ou en Angleterre, pour des raisons que je ne développerai pas. Et donc là, on a un premier facteur, si vous voulez, de cet intérêt allemand, c'est la question nationale. Le 19e siècle, c'est aussi le développement de l'idée d'État-nation. Et l'Allemagne est dans une position un petit peu particulière. En France, on a la France jacobine, tout ça, le côté État-nation, on assume à peu près. L'Angleterre, c'est une île, donc ils ont leur propre facilité par rapport à ça. L'Allemagne, à l'époque, n'existe pas. Elle est divisée entre différents princes, différents empires. Et en fait, ce qui fait l'unité du peuple allemand, à cette époque-là, c'est la langue allemande. C'est l'importance politique de la langue allemande pour faire peuple allemand est à ce point importante que vous prenez par exemple Jacob Grimm, l'un des frères Grimm qui a collecté les contes. Alors c'était aussi un philologue important, et lui il a édité la première grande grammaire allemande en 1819, et il qualifiait cet ouvrage de complètement politique. Pour lui, faire une grammaire de l'allemand, c'était un acte fondamentalement politique. Donc, premier facteur d'intérêt allemand pour l'hypothèse indo-européenne. Deuxième facteur conjoncturel à l'émergence de ce modèle explicatif, c'est le modèle évolutionniste. On a l'origine des espèces de Darwin qui paraît, mais on a aussi d'autres... Le modèle évolutionniste est bien dans les têtes, on en a l'inné et tout ça. Et on a la deuxième génération d'indo-européanistes, en l'occurrence d'indo-germanistes, August Schleicher, qui, comme son nom l'indique, est allemand, et qui, par ailleurs, était botaniste. C'est l'un des pères fondateurs de la recherche en études indo-européennes. Il a posé deux choses assez fondamentales. Et il a publié son précis de grammaire comparée des langues indo-européennes, indo-germaniques, pardon, en 1861, soit 2 ans après la sortie de l'origine des espèces. Et il était par ailleurs très ami avec un autre Allemand, Ernst Haeckel, qui lui était zoologue et qui est la personne qui a introduit les théories de Darwin en Allemagne. Donc c'était vraiment quelque chose qu'il avait en tête. Et pourquoi est-ce que August Schleicher est aussi important dans les études indo-européennes? C'est parce que c'est le premier à avoir fait un arbre généalogique, Stammbaum, d'avoir donc utilisé le modèle de l'arbre généalogique évolutionniste pour décrire l'origine des langues indo-européennes. C'est en allemand. Alors il a fait une deuxième chose très importante, il est le premier à faire une tentative de reconstruction de ce qu'on appelle maintenant le proto-indo-européen. Donc c'est le premier qui, à partir des racines communes entre les différentes langues indo-européennes, a essayé de retrouver la langue d'origine parlée par les indo-européens. Alors à l'époque, ça ressemble encore énormément au sanskrit, notamment dans sa structure. Et il va même jusqu'à écrire une fable du mouton et des chevaux en proto-indo-européen. Alors je vais vous faire, normalement si le son marche, vous aurez un petit extrait d'indo-européen. Voilà. Alors ça, c'était la version de Bird dans les années 2013. Donc Bird, qui est un linguiste anglais. Vous avez peut-être reconnu l'accent anglais sur le continent européen. Donc, les arbres généalogiques et la fable de Schleicher sont encore des choses qui sont réactualisées. C'est-à-dire qu'on fait... On continue à produire des arbres dans la recherche actuelle et on continue à réécrire. Il y a plein de versions de la fable de Schleicher qui existent en fonction des différentes avancées de la reconstruction du proto-indo-européen. Donc c'est très important. Excusez-moi. Donc... Ensuite, on a un troisième personnage de la même génération, Adolf Pictet, qui lui était suisse, germanophone, et commandant d'artillerie, par ailleurs, mais aussi philologue amateur, très, très, très savant, qui lui, en 1859, publie Les origines indo-européennes ou les arias primitifs. Alors, deuxième petite note lexicale. Au XIXe siècle, on commence à appeler indifféremment les Indo-Européens ou Arias, ce qui est issu des Védas, hein, les plus anciens récits mythologiques sanskrits en sanskrit dont on a la trace. Adolf Pictet, lui, c'est l'inventeur du concept de paléontologie linguistique. Qu'est-ce que la paléontologie linguistique ? La paléontologie linguistique, c'est l'idée que, à travers les racines communes, on peut donc déterminer les mots du proto-indo-européen. Et à travers ces mots, on peut décrire les réalités matérielles du peuple indo-européen. Donc, par exemple, l'idée, c'est que s'il y a un mot pour telle plante, c'est qu'ils devaient connaître telle plante dans leur réalité. Alors, je vais passer un deuxième petit extrait sonore qui date de 1951. C'est un professeur, un éminent professeur de la Sorbonne, Michel Lejeune, qui explique un petit peu quel était le consensus sur la question indo-européenne en 1951.
Toutes ces langues sont des transformations divergentes d'une seule et même langue originelle, dont on est en droit d'affirmer l'existence, bien qu'on n'en ait aucun témoignage direct. Et comme une langue n'existe que dans une nation d'apparence, on peut affirmer du même coup l'existence d'une nation indo-européenne qui a essaimé au cours des temps sur une vaste partie de l'ancien continent. Voilà donc une nation tirée par la comparaison linguistique de l'obscurité de la préhistoire, une nation d'il y a 5 ou 6 000 ans et dont les destinées devaient largement déterminer pour des millénaires l'histoire du monde. Il y a la grammaire comparée nous apprend sur cette nation des choses très précises et intéressantes. Les Indo-Européens n'avaient pas de mots pour désigner la mer, car les noms de la mer varient d'une langue indo-européenne à l'autre. Il s'agissait donc à l'époque de l'unité d'une nation continentale, on la situe dans les vastes plaines de l'Est de l'Europe. Elle possédait des termes pour la chasse, pour la pêche, pour l'agriculture, mais elle n'en avait pas pour désigner le bronze ou le fer. Les noms de ces métaux diffèrent d'une langue indo-européenne à l'autre. C'était donc, à l'époque de l'unité, une population de civilisation néolithique, etc. On voit par là quelle clarté la grammaire comparée a pu projeter dans l'ombre ou la pénombre de la préhistoire et de la proto-histoire.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, on sait que à l'heure actuelle, la plupart des hypothèses placent les proto-indo-européens près d'une mer, que par ailleurs, maintenant, on a trouvé la racine qui désigne le bronze, et que par ailleurs, on a une racine commune pour le pied, par exemple, mais pas pour la main, une racine commune pour la neige, mais pas pour la pluie, donc peut-être que c'était un peuple qui n'avait pas de main et qui vivait dans la neige. Je me moque un tout petit peu le principe de la paléontologie linguistique, c'est d'avoir des informations donc sur la culture matérielle de ce peuple afin de pouvoir placer ce fameux berceau originel. Alors, sur la carte là, vous avez à peu près toutes les hypothèses. Il n'y a pas toutes les hypothèses de d'où viennent les Indo-Européens. Il y en a de nombreuses qui sont toutes basées sur la paléontologie linguistique. Par ailleurs, il se trouve que l'origine des mots est quand même très complexe. Les trajets des mots sont très complexes. Vous prenez par exemple le mot corn en anglais britannique il va désigner le blé, en anglais américain il va désigner le maïs, parce que c'est la céréale principale de la base de l'alimentation, mais ça me paraît quand même un petit peu difficile de conclure à la faune et à la flore du néolithique simplement en se basant sur des racines de mots. D'autant plus que, comme vous allez le voir tout à l'heure, c'est des fois des raisonnements qui sont un petit peu circulaires. Donc, où sont passés les Indo-Européens? Ils s'en vont et ils reviennent, comme les chansons populaires. Alors, Leibniz proposait la mer Noire, parce qu'il aimait bien la mer Noire. Ensuite, mais il ne donne pas de justification à la mer Noire. Il le pose comme ça, parce que c'est Leibniz. Ensuite, on a pensé à l'Inde, assez vite, déjà parce que encore une fois, c'est avec la découverte du sanskrit qu'on a formulé l'hypothèse indo-européenne. En plus, l'Inde, c'était encore assez mystérieux. Ça avait aussi l'avantage d'être un berceau qui plaisait beaucoup plus aux gens du XIXe siècle que le Proche-Orient, puisque avec l'explication biblique, il fallait quand même bien admettre que la langue d'origine, c'était l'hébreu. Et au XIXe siècle, avoir pour mythe d'origine l'hébreu, qui était quand même parlé par les juifs, c'était pas forcément ce qui était le plus populaire. Ensuite, Adolf Pittet, donc lui avec sa paléontologie linguistique, il décrit les Indo-Européens, il arrive à en faire une description morale assez précise, il les décrit comme une race à part et bénie de la Providence, et il les situe en Bactriane. Donc à peu près l'Afghanistan actuel. Mais il les fait vivre dans un paysage bucolique qui, dans sa description, ressemble beaucoup à sa Suisse natale. Oui, le paysage de la Suisse et le paysage de l'Afghanistan, je suis désolée, ça ressemble. Ensuite, on a un retour aux steppes d'Asie centrale et d'Europe. Notamment, alors, je vais vous parler du philologue Otto Schrader, qui était aussi allemand. Donc 1855-1919. Alors lui, il part de la paléontologie linguistique et il dit que les Indo-Européens devaient forcément venir de la steppe parce que comme il n'y a pas de racines communes qui décrit les arbres, c'est forcément qu'ils vivaient dans un endroit où il n'y avait pas d'arbres, donc la steppe. Alors on lui a présenté un certain nombre de contre-arguments à ce cher Otto. Notamment, on lui a dit que les steppes qui désignaient comme le point d'origine des Indo-Européens étaient quand même traversées par des grands fleuves, mais qu'il n'y avait pas de racines pour désigner les poissons, et que c'est quand même surprenant qu'un peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivait à côté de grands fleuves n'ait pas de mots pour les poissons. Donc Otto, il répond, c'est évident, c'est qu'il y avait un tabou alimentaire sur les poissons, puisqu'ils n'ont pas de mots. Voilà. Ensuite, on lui dit, oui, mais par contre, il y a une racine commune pour l'ours. Et autant l'ours dans la montagne ou dans la forêt, on se situe à peu près dans la steppe, c'est un peu plus surprenant. Alors Otto, il dit, c'est bien la preuve qu'il y avait des ours dans la steppe à cette époque. C'est prouvé par la paléontologie linguistique. Alors, c'est rigolo comme argument, là, je les caricature un petit peu, mais ce sont toujours ce type d'argument est toujours utilisé à l'heure actuelle par les linguistes qui se réclament de la paléontologie linguistique. Donc, par ailleurs, Otto Schrader, c'était pas un hurluberlu, c'était un savant très instruit, qui faisait un travail sérieux, c'était pas le pseudo-scientifique de l'époque. Il y a aussi une hypothèse qui place les Indo-Européens au niveau de la Baltique. C'est pas non plus appuyé par énormément d'arguments à l'époque, c'est surtout défendu par des linguistes amateurs qui étaient assez nationalistes et qui se voyaient bien être... le berceau d'origine des Indo-Européens. Alors, la paléontologie linguistique, c'est rigolo, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt s'appuyer sur l'archéologie physique? Et est-ce que l'archéologie physique peut essayer d'apporter des réponses à cette question? Alors, l'archéologie, par rapport aux Indo-Européens, elle peut essayer de faire deux choses. Elle peut essayer de mettre en évidence ce qu'on appelle des cultures archéologiques. Grosso modo, c'est des ensembles d'objets qui présentent des caractéristiques assez typiques et similaires, qui sont limités dans une zone géographique et dans une période, et donc qui indiquent la présence d'un peuple avec une culture propre. Et elle peut mettre en évidence un phénomène d'expansion de ce peuple à partir d'une région, une conquête progressive de l'ensemble des zones géographiques. Et bien sûr, il faut, dans l'idéal, que c'est un rapport avec les Indo-Européens. Donc si on arrive à trouver une culture qui pourrait être les Indo-Européens et à montrer archéologiquement qu'ils se sont effectivement répandus et déplacés, ça pourrait prouver quelque chose. Puisque l'idée quand même des Indo-Européens à la base, c'est que ce sont des conquérants. C'est un peuple conquérant qui a imposé sa langue par la conquête. Encore une fois, là, l'Empire romain sert d'exemple. C'est-à-dire que même si on n'avait aucune source écrite sur l'Empire romain, l'archéologie à l'heure actuelle permettrait de retracer de façon assez précise par les objets qu'on retrouve l'expansion depuis Rome jusqu'à tout le bassin méditerranéen et de la culture romaine. Alors, il y a une vingtaine d'hypothèses de foyers originels, on ne va pas toutes les faire. On va en parler de quelques théories principales. Alors, la première grande théorie dont on va parler, c'est la zone Scandinavie, nord de l'Allemagne, Baltique, qui a émergé à la fin du 19e, début du 20e, et notamment de son principal défenseur, Gustav Kosina. Alors, Gustav Kosina, il était allemand, toujours. Il était linguiste et archéologue. Et lui, il a émis l'hypothèse que le peuple indo-européen se serait répandu par 14 invasions successives dans le reste de la zone géographique des langues indo-européennes. Et il explique dans le même souffle que ce faisant, il a progressivement perdu de sa pureté originelle et qu'il s'est abâtardi. Et lui, dans ses recherches, il proposait, il disait qu'il fallait essayer de restaurer cette pureté originelle du peuple indo-européen. Alors, il est mort en 31, donc il n'a pas participé à la mise en place de son programme. Là, je vais faire une petite parenthèse, parce que je vous ai parlé depuis tout à l'heure d'indo-germain, de pureté de la race et d'arien. Le lien entre l'hypothèse indo-européenne et le régime nazi. Alors, il est indéniable, c'est-à-dire que les idéologues nazis ont utilisé cette question des indo-européens. Himmler, en particulier, était un fan. Il a notamment financé et mis en place des programmes de recherche, notamment archéologiques, sur la question. Hitler, lui, a priori, il n'y croyait pas trop. Il trouvait que c'était un peu nul de se référer à des barbares venus du Nord quand il y avait Mussolini, lui, il avait les Romains, quoi. Alors, c'est pas parce que les études indo-européennes ont été appréciées et incitées par les nazis que ça remet en cause, ça suffit à remettre en cause le champ disciplinaire. C'est pas du tout mon propos ici, je suis pas en train d'essayer de faire un point Godwin. Ah, mais les nazis ils aiment bien donc c'est pourri quoi. Par contre, j'ai quand même montré que dès le début. C'est pas aberrant que les nazis se soient repliés sur les indo-européens, puisque c'est quand même quelque chose qui a émergé dans un contexte culturel spécifique, avec donc cette idée de langue, de peuple, et de mythe d'origine, de grands ancêtres, quoi. Et par ailleurs, c'est pas avec la fin du Troisième Reich que les relations entre l'extrême droite et les Indo-Européens se sont achevés, y compris en France. Petite anecdote, on a eu Jean Audry, un linguiste de Lyon 3, un éminent linguiste de Lyon 3, qui était très proche des milieux d'extrême droite, en particulier d'extrême droite païenne. Et alors il a publié deux Que sais-je aux éditions des Presses universitaires de France. Un sur l'indo-européen, la langue, et l'autre sur les indo-européens, le peuple. Il l'a publié en 81. Dans le chapitre consacré au type physique du peuple indo-européen, il est décrit comme grand, blond, aux yeux bleus, et à l'appui de cette description, il cite Hans Günther, qui était le principal raciologue du Troisième Reich. Ça a fait un peu scandale à l'époque. Et par ailleurs, il a fondé le département d'études indo-européennes en 1982 à l'université de Lyon 3, et ce département a fini par être dissous à cause de la publication de thèses et de devoirs de maîtrise négationnistes. Alors, maintenant, d'un point de vue archéologique, le problème de l'hypothèse nordique, c'est qu'elle ne repose sur aucune trace archéologique. En fait, tous les grands mouvements culturels et de population qu'on a pu observer, ils ont toujours du sud vers le nord. On n'en a trouvé aucun qui était du nord vers le sud. Alors, deuxième grande hypothèse, c'est l'hypothèse des steppes. On retourne aux steppes. Hein. Les steppes d'Ukraine et du sud de la Russie. Alors ça a été remis au goût du jour, non pas par Leibniz, mais par Maria Gimbatas et James Mallory. Donc, font un peu partie de ceux qui ont réhabilité la recherche sur les Indo-Européens après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traces archéologiques. On a des traces archéologiques d'une culture qu'on appelle la culture Jamia, ou la culture des tombes à fosses, donc dans cette zone géographique. Par contre, on n'a pas de preuves d'un déplacement de ces populations, d'un déplacement massif sur le modèle d'une conquête du territoire et d'une imposition d'une langue. D'ailleurs, Mallory lui-même reconnaît l'absence de preuves archéologiques de ces déplacements. Alors pourquoi ça fait partie des hypothèses les plus populaires, notamment dans les ouvrages de vulgarisation à destination du grand public et dans les médias? Parce qu'un certain nombre des éléments archéologiques de la culture des tombes à fosses font penser aux Indo-Européens. On a retrouvé des charrettes et des chevaux. Pourquoi ça fait penser aux Indo-Européens? Parce qu'on présente les Indo-Européens, grâce à la paléontologie linguistique, comme ayant des chars de guerre, donc tirés par des chevaux. Alors, savoir que les roues qu'on a retrouvées dans la culture des tombes à fosses, ce sont des roues pleines, et pas des roues à rayons comme dans les chars de guerre. Par ailleurs, il y avait beaucoup de chevaux sauvages dans la région à cette époque-là, et que la plupart des restes de chevaux qu'on a retrouvés, c'était des restes de chevaux sauvages. Comment est-ce qu'on fait pour comment les archéologues font pour savoir si le cheval il était sauvage ou domestiqué? Généralement, le cheval sauvage, on le retrouve dans les poubelles avec les restes de repas. Alors, ensuite, on a l'hypothèse indienne. Alors, pourquoi est-ce que l'hypothèse indienne est aussi importante? Parce qu'en Inde, il y a eu une grande civilisation, la civilisation de l'Indus, qui est une civilisation urbaine. Et pendant très longtemps, l'explication canonique reconnue par la majorité des chercheurs à l'effondrement de cette civilisation, c'était l'invasion justement des Indo-Européens qui aurait provoqué l'effondrement de la civilisation de l'Indus. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose que certains d'entre vous ont pu voir en cours d'histoire. Alors, donc, ce qui est intéressant avec l'hypothèse indienne, c'est que, comme je l'ai dit, les Indo-Européens sont aussi appelés Aryens. Ça vient des Védas, qui sont des textes sacrés hindous les plus anciens dont on a la trace. Alors, ce sont des récits mythologiques qui décrivent la lutte entre le bien et le mal, les Aryas et les Daresyas. Mais les castes dominantes en Inde ont en fait présenté ces récits mythologiques comme des sources historiques, puisque ça permettait de justifier leur domination et de justifier leur supériorité. À l'heure actuelle, ce sont les nationalistes hindous qui sont au pouvoir en Inde, et ils financent à grands frais la recherche sur les Indo-Européens en partant de l'hypothèse que le berceau des Indo-Européens est sur place. Alors là, le problème, c'est qu'on n'a pas de traces archéologiques des invasions qui auraient précipité la chute de la civilisation de l'Indus. Et en fait, le consensus actuel des archéologues, il est plutôt sur un effondrement progressif d'un système urbain qui serait devenu trop gros. Et cette civilisation urbaine se serait transformée en petite communauté rurale, mais en fait, c'est la même population. C'est juste que ils ont changé de mode de vie. Et enfin, on a une hypothèse qui est l'hypothèse proche-orientale. Alors, elle a été longtemps très médiatisée aussi. L'idée, c'est que... Il y a quelque chose qui est à peu près consensuel. Il y a eu une révolution néolithique au Proche-Orient. Cette révolution néolithique, donc c'est le passage à l'agriculture, a entraîné un boom démographique et du coup la population a migré vers le nord, vers l'Europe. Ça a entraîné une acculturation progressive, donc où effectivement les populations de chasseurs-cueilleurs dans la zone européenne ont fini par adopter l'agriculture. Et là on a des preuves. Et c'est super bien parce que c'est un peu basé sur les faits. Donc, le consensus archéologique, il est sur un déplacement progressif, pas sur des grandes invasions, mais sur de proche en proche, au fur et à mesure, sur une période de temps assez longue. Et on est même capable, à l'heure actuelle, de suivre le déplacement quasiment au kilomètre près de cette culture, avec les objets qu'on a retrouvés. Donc ça, c'est assez bien étayé. Le problème, c'est que ça n'a pas tellement de rapport avec les Indo-Européens. C'est-à-dire qu'a priori, au Proche-Orient, ils ne parlaient pas de langue indo-européenne. Donc, est-ce que c'est... ils se sont répandus partout. Mais est-ce que c'est eux qui apportaient la langue européenne? Rien n'est moins sûr. Il y a très très peu de langues indo-européennes à date ancienne au Proche-Orient. à part peut-être le Hittite en Turquie, mais en fait, si on se base sur une double origine avec le Hittite, parce qu'en fait, le Hittite, il est plus loin sur l'arbre que... Enfin, bref. Du coup, en fait, la néolithisation de la Turquie n'aurait rien à voir avec la néolithisation du reste du Proche-Orient. C'est un peu étrange. Et par ailleurs, toujours avec l'idée de la paléontologie linguistique, le vocabulaire commun des Indo-Européens ne décrit absolument pas un paysage méditerranéen. Par ailleurs, il existe des langues anciennes en Europe, le crète, l'étrusque, les langues sibériques, le tartassien, le picte, le proto-basque, qui ne sont pas indo-européennes, et qui, avec cette hypothèse, parce que l'hypothèse Proche-Orientale, c'est un vrai rouleau compresseur hein, qui se serait répandu sur l'Europe, bah, pourquoi est-ce que ces langues-là auraient survécu ou pas, c'est pas du tout expliqué par le modèle. Alors, le vrai problème, il n'est pas tellement dans un modèle plutôt que dans un autre, enfin, s'il y en a qui sont plus problématiques, hein. Il y en a qui veulent faire partir les indo-européens du pôle Nord, il y en a d'autres qui veulent les faire partir de l'Atlantide. D'ailleurs, certains placent l'Atlantide en mer Baltique, du coup. Il y en a aussi qui veulent les faire partir de la Terre creuse. Mais, oui. En fait, si vous allez sur YouTube et que vous perdez sur YouTube, les Indo-Européens, c'est un peu comme les extraterrestres qui auraient construit les pyramides. Hein. Il y a des tas de théories à leur sujet et qui sont... intéressant. Non, le vrai problème, c'est pas sur les hypothèses les plus solides scientifiquement, celles dont je vous ai parlé. Le problème, en fait, il est plutôt sur l'hypothèse de base. C'est-à-dire de se dire, s'il y a des similarités entre les langues, c'est que ça vient forcément d'une langue unique, sur le modèle du latin, et sur le modèle des espèces biologiques. Et cette langue unique est forcément parlée par un peuple homogène avec une culture homogène. Parce qu'en fait, cette idée, elle a émergé au moment des États-nations. Et à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de linguistes qui considèrent que la langue originelle reconstruite, c'est plus un modèle théorique, un système de correspondance, qu'une langue qui aurait été véritablement parlée. Par ailleurs, il faut quand même souligner que la plupart des sociétés traditionnelles, mais aussi des sociétés contemporaines, sont bilingues ou trilingues, en tout cas sont plurilingues. L'unilinguisme, c'est une exception. En termes statistiques, la plupart des gens parlent plusieurs langues. Et nous ne parlons en Europe, pour la grande majorité d'entre nous, qu'une seule langue, que depuis très récemment, quelques générations à peine. Donc, une langue égale un peuple égale une langue égale un peuple, c'est un modèle qui est peut-être à remettre en cause aussi. Et par ailleurs, il faut savoir que toutes les hypothèses indo-européennes sont basées sur le modèle d'un peuple conquérant qui aurait réussi à imposer sa culture de façon durable, à remplacer la culture des peuples conquis. Et ça aussi, ça pose problème. Parce que les Romains, ils ont réussi, mais les Romains, c'était un empire. C'était pas des chasseurs, enfin, c'était pas des chasseurs-cueilleurs sur un char de guerre. Et surtout, le latin a donné les langues romanes après plusieurs siècles de colonisation par un état fort. Ils sont restés sur place pendant longtemps, ils avaient un système extrêmement structuré, et par ailleurs, tout ce que l'Empire romain a conquis ne parle pas maintenant forcément une langue latine. Et on parle des langues latines dans des endroits que les Romains n'ont jamais touché. En fait, les conquérants de type pré-étatique, que ce soit les Francs, les Vikings, les Visigoths, les Proto-Bulgares, les Mongols et tout ça, généralement, au bout de quelques générations, ils sont systématiquement absorbés par la population et la culture qu'ils ont conquis. C'est eux, en fait, qui absorbent, qui baignent. Simplement, pas une question de nombre, quoi. Ils conquièrent le territoire, ils sont 1 pour 50, ils se marient avec des locaux et ils finissent par être absorbés eux-mêmes dans la culture locale. Donc, imaginez qu'ils aient pu remplacer... parce que c'est difficile de remplacer la langue que les gens y parlent, hein. Bah. C'est quand même un petit peu difficile. Alors, on a un autre exemple qui est celui des conquistadors, par exemple. Les conquistadors, c'est pareil. Les conquistadors, ça fait un millénaire qu'ils y sont. Enfin, ils y sont plus, mais... Et on parle encore les langues autochtones en Amérique du Sud. Elles n'ont pas disparu, elles n'ont pas été complètement remplacées par l'espagnol. Et par ailleurs, un autre problème, c'est le modèle de l'arbre. Pourquoi est-ce que le modèle de l'arbre de Schleicher ou des plus modernes est gênant? Alors, on fait toujours des arbres. Depuis quelques années, grâce au développement de l'informatique, on fait des arbres avec des modèles mathématiques qui sont beaucoup plus complexes que l'arbre proposé par Schleicher. Donc ce sont des arbres sur des modèles phylogénétiques. Alors, je vais vous en montrer. Pas de raison. Ils sont jolis, il y a des couleurs et tout. Alors là, vous avez un premier arbre qui était paru dans la revue Science en 2012. Très sympa. Alors lui, du coup, il fait dater la séparation d'il y a 900 ans, 9000 ans de maintenant. Donc c'est une correspondance avec le modèle proche-oriental. Mais on a par exemple Chang et son équipe qui en 2015 produit cet arbre-là, qui est très joli aussi, et qui correspond plutôt à l'hypothèse des steppes. Et en fait, chaque équipe fait des calculs différents et aboutit à des résultats différents qui correspondent aux autres modèles, mais il n'y en a pas un qui est plus convaincant que l'autre. Mais par contre, on peut quand même espérer que le développement de la modélisation informatique puisse apporter des réponses un peu intéressantes dans les années qui viennent. Alors, il y a d'autres types de modèles qui existent. Il y a des modèles en réseau. Mais je voulais vous montrer quelques chiffres sur le lexique commun. Alors, aux 14 familles de langues indo-européennes, il y a une seule racine commune. Commune à 13 familles, 8. Commune à 12 familles, 28. Commune à 11 familles, 36. Et on arrive à 112 racines communes pour 8 familles sur 14. Donc voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas non plus énormément de données sur lesquelles s'appuyer. Et que si les... Parce que, bon là, c'est sur le lexique, mais il y a aussi des ressemblances morphologiques et grammaticales entre ces langues. Donc la classification des langues indo-européennes, le regroupement, il n'est pas basé seulement sur ces 1 à 112 racines communes, mais aussi sur les ressemblances morphologiques. Cependant, c'est vrai que vous voyez bien que la paléontologie linguistique, ils n'avaient pas 112 mots, hein, les Indo-Européens, ils en avaient un peu plus. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc on continue à faire des fables de Schleicher. Plein de versions qui sont aussi toutes différentes, hein, même si elles sont faites avec le même sérieux et le même... voilà, on ne peut pas dire qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. Dans celles qui sont sorties, qui sortent en ce moment, elles sont différentes, il n'y a pas de consensus. Dès le 19e siècle, on a des linguistes qui présentent des modèles alternatifs à celui de l'arbre. Par exemple, on a Johannes Schmidt, un élève de Schleicher, qui propose un modèle par vague. Lui, il s'opposait à l'idée d'arbre généalogique. Il disait que c'était pas nécessaire et que c'était même probablement pas exact. Donc sa théorie des vagues, c'est que les différents changements linguistiques se propagent comme des vagues à partir des centres politiques, commerciaux ou culturels importants le long des voies de communication. Un petit peu comme un pavé dans la mare, ça fait des vagues, ça se répand comme ça. Il considère la langue originale comme une fiction scientifique. On a aussi les chercheurs qui sont aussi des élèves de Schleicher, Hugo Schuchart et Nikolai Trubetskoy. Donc le premier travaille sur les langues mixtes et créoles, le deuxième sur la linguistique aréale, donc en réseau. Alors ce qui est intéressant avec cette idée de langue mixte, c'est qu'effectivement on a les créoles, on a l'anglais. Il y a 50% de mots français en anglais. On a le vietnamien, le swahili et tout ça. Ce sont des langues qui sont des mélanges, issues de mélanges d'autres langues. Et c'est ça, en fait, le problème de l'arbre. C'est que, effectivement, en biologie, on a un modèle d'arbre. Parce que À un moment donné, quand on a du code génétique, quand c'est trop différent, ça ne peut plus faire de croisement. Il y a une branche qui se sépare de façon ferme. Vous voyez un ornithorynque, vous ne vous dites pas que ça doit être le croisement d'une loutre et d'un canard. Et dans les langues, ça marche. L'anglais, c'est un ornithorynque. Je vais vous en parler 5 minutes parce que c'est rigolo et qu'en plus, je connais bien l'anglais. Donc je vous dis, en anglais, il y a à peu près 50% du lexique qui est d'origine, qui sont des mots français en fait. Donc il y a à peu près 50% du lexique avec des racines latines. L'anglais étant une langue germanique. Pourquoi l'anglais est une langue germanique? D'abord, on avait des dialectes germaniques sur l'île d'Angleterre. Alors, c'est ce qu'on appelait le vieil anglais. Les premières phrases qu'on en a, ce sont sous forme de runes. Donc il y avait les Angles, les Saxons, les Jutes. Phonétiquement, le dialecte germanique dont ils étaient le plus proches, c'était le dialecte frison, sachant qu'on n'a aucune trace que des frisons aient jamais mis le pied sur l'île. Ensuite, il y a les Vikings qui arrivent. Les Vikings qui parlaient une autre langue germanique, le vieux norrois, qui fait partie d'une autre branche, de la famille germanique. Hein, c'est ce qui a donné le Donc deux origines germaniques différentes pour l'instant, on est bien. Forte influence sur le lexique et la grammaire du vieux norrois. Il y a à ce moment-là aussi une influence latine, non pas par les Romains qui étaient arrivés un peu avant et qui s'étaient arrêtés au mur d'Adrien, qui n'avaient pas laissé grand-chose, mais par les prêtres et les moines catholiques irlandais. Qui ont pas mal d'influence sur la langue. Ensuite, on passe au moyen anglais avec l'arrivée de Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant qui parlait normand, qui était en fait une mélange de langue d'oeil, principalement de la langue d'oeil, donc une langue latine, matinée de vieux norrois aussi, parce qu'eux-mêmes s'étaient pris des invasions vikings avant. Donc c'était aussi du vieux norrois, mais pas tout à fait le même, parce que, bon voilà. Donc, on se retrouve avec une deuxième influence latine et une troisième influence germanique à ce moment-là, dans la langue. L'influence lexicale est très très forte, hein, puisque ça laisse à peu près, je vous l'ai dit, 50% des mots du vocabulaire. Une influence grammaticale aussi importante, c'est pour ça qu'on met un S au pluriel en anglais. Ensuite, on arrive à l'anglais moderne. Alors, l'anglais moderne naissant, il se produit au moment du grand changement vocalique. Le grand changement vocalique, on ne sait pas du tout à quoi il est dû. Il y a deux hypothèses principales, soit c'est les Français, soit c'est la peste noire. C'est probablement effectivement les deux. Et ensuite, on a l'anglais moderne tardif, où il y a toute une influence des langues étrangères, des pays colonisés en fait par l'Angleterre, qui ont aussi laissé pas mal de mots de vocabulaire. Donc l'anglais, là, il est bien rangé sur son arbre, mais en fait... Il y a 50% des mots qui sont français, quoi. Il faudrait faire une branche spécialement pour l'anglais, enfin, en tout cas des embranchements un peu bizarres. Donc, puis c'est pareil, il y a des créoles qui sont avec des langues africaines et des langues anglaises ou françaises, par exemple. Donc, contrairement aux animaux ou aux plantes, les langues ne sont pas liées aux lois de la génétique et on n'est pas obligé d'imaginer un modèle complètement divergent comme ça, on peut même imaginer des modèles plus convergents. Alors, bientôt fini, c'est la conclusion. Donc en fait, ce qui a interrogé à l'heure actuelle, c'est le modèle sous-jacent à cette hypothèse indo-européenne, c'est-à-dire le modèle arborescent-centrifuge, où tout part d'un point unique, et celui de la diffusion, donc, à partir d'un peuple unique, qui en plus serait lié à un peuple unique, et j'en ai pas parlé dans mon intervention, mais quand même, dès le début et pendant très longtemps, peuple unique, c'était race unique. Hein. On a mesuré les crânes pour savoir s'ils correspondaient au type indo-européen. Or, ce modèle, rien ne le prouve de façon directe. Parce que autant les ressemblances, les points communs entre les langues indo-européennes, elles sont constatables parce qu'on en a des sources directes. On a les langues, hein, on a des locuteurs, on a des textes, on a des sources. Donc ces ressemblances, on en a des preuves directes. Mais l'hypothèse que ces ressemblances soient dues à une langue unique, c'est déjà une déduction, c'est déjà indirect. Et l'hypothèse que cette langue unique devait être parlée par un peuple unique, c'est déjà du troisième degré. Et donc, on peut espérer que dans les années qui viennent, il y ait des recherches plus pluridisciplinaires et qui ne cherchent plus une espèce de récit mythique du type « nos ancêtres les Gaulois », mais qui étudient des phénomènes sur le temps long, qui font des allers-retours et qui permettent de mieux rendre compte de cette question. Et juste dernier point, j'ai souligné un petit peu les enjeux idéologiques de la question. Ils sont extrêmement forts dès le début, encore à l'heure actuelle, hein, vous pouvez voir des tas de théories d'extrême droite sur les Indo-Européens, mais on a aussi les nationalistes hindous, par exemple. On a la Russie aussi, qui aimerait bien être le berceau d'origine des Indo-Européens et qui finance aussi des recherches par rapport à ça. Et je pense que c'est une histoire qui est intéressante justement pour s'interroger sur le rapport entre la naissance d'hypothèses scientifiques et le contexte culturel, politique, idéologique dans lequel les chercheurs qui font cette hypothèse baignent. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui au Cercle d'Éthique.